instant, c'est l'actualité du cinéma le mercredi avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver. L'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Ça va très bien.
Vous êtes venu à bicyclette ?
Eh oui, le beau temps revient et en sortant du cinéma, eh ben, on vient à la radio à vélo, à bicyclette, chantait Yves.
Joyeux. Joyeux et pédalant. Tout en pédalant, vous repensez aux films et au nombre de films que vous allez nous conseiller ce soir. Alors combien, Laurent ?
Oui, alors si je retrouve ma petite fiche que l'ouvreuse m'a planquée de mémoire, je crois qu'il y en a 4.
Ah oui ?
On verra, peut-être qu'il y en a 5, je ne sais pas.
Oui,
l'ouvreuse m'a fait une blague.
Les surprises.
Voilà, les surprises du direct. Et il y aura un conseil de lecture.
Ah, un conseil de lecture, parce que vous aimez bien qu'on éteigne de temps en temps la télé.
Et tous nos écrans qui nous envahissent.
Ah, oui. Avec nous également ce soir, Guillaume Sidom. Comment allez-vous, Guillaume ?
Bonsoir, bien, ça va très bien, merci.
Oh là non, c'est pas vrai, vous avez une petite mine.
Un petit peu, mais ça va aller.
Bon, alors, vous allez vous aussi nous faire rêver, peut-être pas, mais en tout cas, il se passe de drôles de choses dans votre retour de manivelle, n'est-ce pas ?
Où ce soir, Louis-Marie, un enfer bourgeois pour rendre hommage à une grande actrice et un grand réalisateur espagnol à découvrir aux abattoirs à Toulouse ce week-end.
Il y aura également notre ami Grégory Combe qui, ce soir, sort de sa zone de confort, selon ses propres termes, pour aller empiéter sur la vôtre. Laurent, la vôtre et celle de l'ouvreuse, puisqu'il va parler d'un des nouveaux films de la semaine, celui qui est signé Erhan Riklis, Lire Lolita à Téhéran, avec Goldshift et Farahani. Et ben, ça sera pour tout à l'heure, en même temps que vous, Laurent et l'ouvreuse, qui détaillait l'affiche de la semaine et qui parlait des nouveaux films qu'on peut découvrir dans un cinéma près de chez soi. Après toutes ces belles choses, eh bien, il y a les reprises, quand même. On vient d'en parler avec vous, Laurent, mais aussi sur le grand écran, il y a quelques surprises assez sympathique et puis des coups de cœur bien sûr parce qu'on a toujours des films, des manifestations, des expositions qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que le Festival Ciné Latino, 37e rencontre du nom qui a commencé vendredi dernier, 21 mars, et s'achèvera dimanche prochain, 30 mars, bat son plein. Et nous reviendrons sur le festival, puisque nous partirons à la rencontre d'un grand réalisateur brésilien, Karim Aynouz. Et puis nous donnerons quelques informations et quelques repères à ne pas manquer sur les films et les rencontres à faire dans ce qu'il reste du Festival Ciné Latino. On est ensemble jusqu'à 19h. Bon début de soirée avec nous. Allez, installez-vous confortablement, la projection commence tout de suite.
La prochaine fois, vous viendrez dîner à la maison. Vous goûterez mon caviar à la cuillère. Je sais que vous aimez ça. Florence nous préparera son fameux mélange, vodka et aquavit.
Oui. Votre sensibilité s'accorde avec votre conscience humanitaire. Mais si vous voulez refuser les idées reçues, encore faut-il les remplacer par une morale personnelle, Raphaël.
J'ai toujours fait ce que ma conscience m'a dicté.
Encore un peu de gigot, Raphaël ?
Oui, avec plaisir.
Vous l'aimez pas trop cuit ?
Bon, ça m'est égal.
C'est délicieux. Merci. Mais je suis peut-être un peu perverse. J'ai un faible pour les flageolets américains en boîte.
Les flageolets américains en boîte et plein d'autres choses et bonnes que sont en train de déguster tous les convives de ce dîner, n'est-ce pas ? Guillaume.
Et oui, autour de la table, pour le charme discret de la bourgeoisie, signé Louise Buñuel avec la collaboration du scénariste Jean-Claude Carrière, réalisé en 1972 avec Bulogier, Stéphane Audran, Fernand Doré, Delphine Seyrig, hein, Michel Piccoli, Jean-Pierre Cassel ou encore Paul Francoeur au générique de cet enfer bourgeois à travers la banalité apparente des gestes du quotidien, une peinture effroyable de la société, une impitoyable déconstruction de la bourgeoisie, un pamphlet toujours d'actualité, hein, plus de 50 ans plus tard, l'un des sommets de l'œuvre de Louise Buñuel. L'idée du film, raconte Jean-Claude Carrière, tient en un mot, répétition de ces repas à l'insablement inachevé, conduisant les convives à affronter des événements imprévus jusqu'à la mort. Impossible de ne pas penser, en voyant le film, à la grande bouffe, évidemment, de Marco Ferreri, sorti un an plus tard, où le repas tient aussi une place essentielle à la fois porteur des valeurs bourgeoises, rituel social et signe de l'animalité et des pulsions.
Que raconte donc le film de Louise Buñuel, Guillaume ?
Eh bien, Henri et Paul, deux hommes bien sous tout rapport, se livrent à un discret trafic de drogue avec Raphaël, l'ambassadeur de la République de Miranda. Avec leurs épouses, eh bien, ils forment un petit groupe d'amis. Don Raphaël Acosta et ses amis, Monsieur et Madame Thévenot, accompagnés de Florence, la sœur de Madame, se rendent à dîner chez Monsieur et Madame Sénéchal. Et à leur arrivée, eh bien, ils s'étonnent de l'absence de feu dans la cheminée et constatent, eh bien, que la table n'est pas et que les sénéchals n'avaient pas noté la bonne date sur leur agenda. Ils décident quand même de se rendre dans un restaurant du coin, mais son propriétaire vient de passer l'arme à gauche et repose dans la pièce d'à côté. Par un étrange coup du sort, à chaque fois qu'ils conviennent donc de déjeuner ensemble, eh bien, un événement imprévu trouble leurs agapes. L'enjeu du film est donc ainsi posé. Les protagonistes du film vont-ils parvenir enfin à manger ensemble? Car la nourriture est donc l'acte même de manger, est au centre de quasiment toutes les scènes du film, ou comment le moment du repas devient une sorte de leitmotiv, prétexte à toutes les facéties buñueliennes. Et quel moment plus anodin et familier que celui du repas? À partir de ce principe d'obstacle, eh bien, Louise Buñuel s'amuse à brocarder les us et coutumes de la bourgeoisie, ses pulsions sexuelles, ses tromperies, ses malversations. Point d'histoire linéaire ici, mais davantage un collage au surréalisme bien tempéré qui appartient à la dernière période dite française de la carrière du cinéaste espagnol. C'est l'une de ses œuvres les plus célèbres et les plus reconnues, qui vaut pour ses bizarreries loufoques, un colonel qui fume de la marijuana, des notables qui se partagent une livraison de cocaïne, et surtout pour l'enchaînement très fluide des rêves, certains annoncés, d'autres révélés après coup au réveil des personnages. Et dans cette quête d'un repas planturé, bien la réalité et les rêves de chacun des convives se mêlent jusqu'à la dérision la plus totale. Une bande bon chic bon genre tont donc de conserver les apparences de la politesse dans un univers grouillant d'imprévus, de pulsions et de fantômes. Fasciné par la répétition, Louise Buñuel écrit avec l'aide de Jean-Claude Carrière 5 versions du scénario avant d'arriver au résultat qu'il souhaite. Il fallait trouver un juste équilibre entre la réalité de la situation qui devait être logique et quotidienne et l'accumulation d'obstacles inattendus qui ne devaient cependant jamais paraître fantastiques ou extravagants, explique-t-il.
Alors le film a été tourné à Paris et il entremêle le rêve et même le rêve dans le rêve.
Oui, les fantasmes, la violence et des conventions sociales tellement outrées qu'elles participent à l'atmosphère surréaliste. C'est ainsi seulement caché sous la table pendant qu'au-dessus un commando a pris le contrôle de la maison que Raphaël peut enfin goûter au traditionnel gigot. Le film est ainsi constitué donc de nombreux récits et de rêves imbriqués, je l'ai dit, les uns dans les autres. Il adopte ici une construction répétitive. L'invitation à dîner est l'une des habitudes de la bourgeoisie, une convention de la classe sociale. Ici tournée en ridicule et dérision, Buñuel est ici attentif à ne pas aller trop loin dans le fantastique ou l'absurde, afin de maintenir un équilibre fascinant entre l'incroyable, la surprise et l'impossible. Le film obéit aussi au principe des associations d'idées, des cadavres esquis et du rêve raconté, avec une structure faussement alternative qui répond en fait à un agencement musical proche des mécanismes de l'inconscient, assisté de son ami et complice Jean-Claude Carrière. Buñuel donne libre cours à son humour massacrant et iconoclaste, sans cacher sa fascination pour les rituels sociaux de la bourgeoisie. Les principaux objets d'étude sont le couple et l'infidélité, le clergé, l'armée, les idées réactionnaires, ont encore l'hypocrisie. C'est plus que jamais du cinéma d'entomologiste méticuleux et onirique. Le charme discret de la bourgeoisie annonce le fantôme de la liberté dans lequel Buñuel elle laissera libre cours à ses fantasmagories, un chef-d'œuvre hein, signé de l'auteur de Los Olvidados, Viridiana et Belle de Jour, qui remporte en 1973 à Hollywood l'Oscar du meilleur film étranger, aussi insensé que le talent de nous captiver avec les washi-washa de six bourgeois pour qui l'enfer, c'est les autres. À retrouver donc ce samedi 29 mars à 16h aux abattoirs à Toulouse dans le cadre du week-end consacré à Delphine Seyrig. Ce samedi 29 et dimanche 30 mars donc, en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, retrouvez toute la programmation sur lacinémathèquedetoulouse.com en Blu-ray et DVD chez Studio Canal. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Attention, ce n'est pas la bande originale du film de Luis Buñuel, Le charme discret de la bourgeoisie, mais une bande son écrite pour un film qui lui est consacré, et pas n'importe quel film. Il est signé Salvador Simo, et c'est un film d'animation sorti en juin 2019 et qui s'intitulait Buñuel après l'âge d'or, ou l'histoire de Buñuel qui, après à avoir projeté l'âge d'or en 1930, qui a fait scandale, se retrouve totalement déprimé et désargenté. Il a un ticket de gagnant de loterie, acheté par son ami, le sculpteur Ramon Acine, et tout ça va changer le cours des choses et permettre à Buñuel de réaliser le film Terre sans pain et de retrouver foi en son incroyable talent. Un incroyable film d'animation à découvrir, et on ne peut le découvrir qu'en le cherchant sur quelques sites de streaming. Eh oui, mais que faire? En tout cas, Le charme discret de la bourgeoisie, ça, il est possible de le voir. Et on peut le voir où? Vous voulez bien nous le rappeler, Guillaume Sidom?
Eh bien, à la Cinémathèque de Toulouse, en partenariat... Enfin, pardon, pas à la Cinémathèque de Toulouse, elle est en travaux. Aux abattoirs, en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, ce samedi 29 mars à 16h.
J'ai quoi qu'il a plusieurs choses, j'ai quoi qu'il a...
Non, pas tout de suite, il s'emballe. Vous avez reconnu les oiseaux qui parcourent la forêt luxuriante de l'Amazonie probablement et qui servent de décor à la bande annonce, le trailer de Ciné Latino, les 37e rencontres qui ont commencé vendredi dernier et qui battent son plein. En ce moment. Alors, vous avez entendu les accents de la voix de Karim Aynouz qui était l'invité d'honneur de Ciné Latino qui était là pour le début du festival. À sa suite viendra Albertina Cari, mais pour le moment c'est lui qu'on va découvrir. Alors Cari Meynouz, son nom est un peu intrigant. Il a des origines algériennes, et oui, par son papa qui est kabyle, mais sa maman était brésilienne, et il est né à Fortaleza, dans le nord du Brésil. Par conséquent, il est bel et bien brésilien, avec des racines kabyles. Et à travers toutes ces cultures, à la confluence de tous ces peuples, de tous ces pays, il a tourné bien évidemment au Brésil, mais il a fait le tour du monde. Il a été en Allemagne, il a bien sûr été en Algérie et même au Royaume-Uni, puisque il a tourné Le Jeu de la Reine avec Jude Law, un film qui est sorti il y a peu de temps, c'était en 2023, et le film était d'ailleurs présenté à Cannes, comme la plupart de ses films d'ailleurs. Un grand nombre de ses films ont été présentés à Cannes, soit à la quinzaine, ou bien en sélection officielle, Un certain regard, ou en sélection officielle, comme son dernier film qui était dans la compétition, et c'était pas plus tard que l'année dernière, et dont le titre est Motel Destino. Bon, vous savez un peu mieux qui est Cari Meynouz, et Cari Meynouz s'est lancé dans le cinéma parce que pour lui, écrire c'est compliqué. Même les scénarios, c'est difficile pour lui. Il en écrit, mais c'est compliqué. Et pour lui, la caméra, c'est ce qui lui permet d'écrire, en fait. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette caméra? En fait, il fait un journal intime, d'une certaine façon. Son cinéma, oui, c'est étrange, mais il va vous expliquer que par certains côtés, en tout cas certains de ses films, pas tous bien sûr, ont quelque chose d'intime qui remonte jusqu'aux racines de ce qu'il est. Tout de suite, Cari Meynouz. Alors c'était au cours d'une rencontre presse, il y avait un peu de bruit autour de nous, mais tout se passe bien et vous allez bien l'entendre. Cari Meynouz.
Je crois qu'il a plusieurs choses. Je crois qu'il a, quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'était vraiment, pas pour être partagé, c'était vraiment un journal intime. C'était vraiment à l'époque au début de caméra numérique. Et pour moi, c'était une façon d'écrire une espèce d'autobiographie ou d'avoir un journal intime. Moi, l'écriture, moi, on n'est pas très proches. Mais après, il y a un moment où les journaux intimes, il faut que ça soit partagé. Parce que sinon, c'est ce que je disais hier soir, je crois que ça coûte tellement cher pour faire du cinéma. Et surtout, si on fait du cinéma avec de l'argentique, avec une espèce de structure, moi, j'ai petit à petit appris à partager. Je trouve que mon premier long-métrage, et même les courts-métrages, j'avais pas vraiment pensé à un public. Pour moi, c'était une espèce de besoin, presque comme un besoin de crier comme ça. Il avait un truc surtout sur le premier long-métrage où j'avais pas du tout réfléchi dans la fabrication du film, même à la sortie du film, de comment les partager. Et c'était assez violent pour moi, parce que pour moi c'était un film, même si j'avais beaucoup envie de les partager, c'était quelque chose que j'aimerais bien garder dans mon tiroir. Mais après ça, ça dépend des films. Par exemple, il y a des films que je trouve que c'est des journaux intimes, qui sont écrits comme des journaux intimes, mais qui sont plutôt des dispositifs plutôt qu'un vrai journal intime, parce que les vrais journaux intimes, en toute honnêteté, il faut que ça reste caché, quoi. Alors c'est plutôt un dispositif, mais il faut le dire aussi que dans les temps de fabrication d'un film, jusqu'au moment où ça sort, où ça première, ça reste quelque chose de très intime pour moi. C'est par exemple là, cette semaine, il faut que je boucle le montage d'un nouveau film. Et pour moi, c'est les pires moments de tout. C'est plus intime. C'est quelque chose qui va devenir très public. Et j'ai beaucoup appris pendant les années, surtout au début de mon trajet en faisant des longs métrages, que, et là aussi de l'autre côté, quoi. Il faut que ça soit très public. Mais des fois que j'ai fait des films que j'appelle comme des journaux intimes et qui restent comme des journaux intimes, c'était plutôt un dispositif. Mais ça reste toujours un acte très, très, très intime pour moi et très privé.
Vous parlez aussi à propos de vos films de comme des romans épistolaires. Il y a tout à la fois le journal intime et puis aussi le fait d'échanger des courriers avec un destinataire qui vous tient à cœur.
Tout à fait, tout à fait. moi j'ai jamais fait une rétrospective, alors quand je regarde en arrière comme ça et que je vois un peu des traces communes, qui c'est pas des traces communes que moi j'avais en tête. C'est vrai qu'il a beaucoup de répétitions par rapport à la question épistolaire. Et ce matin, avant de venir ici, j'étais en train de parler avec les scénaristes de ce film que je suis en train de finir. On parlait de la voix off, la voix off qui passe pendant tout le film. Vous savez que ça revient assez souvent. Même dans mon premier court-métrage, il avait ça. Et je trouve que ça revient toujours aux personnes, ça devient toujours une expérience intime, quoi. Je trouve que ça vient. Là, je sais un peu d'où ça vient. Mes parents échangeaient beaucoup de lettres. Et ma mère, elle a eu un prix aux États-Unis, parce qu'elles se sont connues aux États-Unis, elle a eu un prix de la poste de la petite ville où elle habitait, parce qu'ils habitaient dans des villes différentes. Elle a eu un prix, elle était la femme de la ville qui a reçu le plus de lettres pendant un certain mois. Et je crois que ça a resté avec moi. Et à part ça, je trouve aussi que les récits épistolaires, ça nous permet d'arriver chez vous plus vite.
Bénédicte Schiffer, cette musique a été composée pour le film de Carrie Maynouz, La vie invisible. Alors, j'ai perdu mes notes, mais je vais les retrouver tout de suite parce que je ne voudrais pas écorcher le nom de cette dame. C'est La vie invisible d'Eurydice Gasmao, l'histoire de deux sœurs séparées. Malgré elles par leur père et qui vont faire pendant toute leur vie en sorte, essayer en tout cas de se retrouver et de construire leur propre vie. Un film magnifique présenté à un certain regard, la sélection officielle bis du Festival de Cannes, il était présenté en 2019 à un certain regard et a eu le prix Un certain regard. Alors vous voulez voir ce film, bien c'est possible, vous irez vendredi prochain, 28 à 18h10, au Pathé Wilson. Il est diffusé et vous resterez au Pathé Wilson parce que juste après, à 22h35, il y a Marin des Montagnes. Alors, Marin des Montagnes, c'est un film magnifique, toujours de Carrie Maynouz, bien sûr. Un film documentaire où il est retourné sur les traces de son père en partant du côté de la Provence, la Côte d'Azur, par là. Il a pris un bateau et il est parti en Algérie, en bateau, pour aller retrouver les racines de son père. Et il voulait faire au départ ce voyage avec sa maman, mais ça a été compliqué. Et si elle avait survécu, puisqu'elle est décédée avant qu'il ne puisse ne le faire. Et il ne l'aurait pas fait comme ça, probablement. Mais là, en faisant ce cheminement, cette façon d'arriver jusqu'aux origines de son papa, c'était une façon, il parlait de films épistolaires, ben là, on y est, justement, c'est une façon d'entrer en contact avec sa maman, elle est de tous les plans, pratiquement, parce que c'est un film documentaire, et on est avec elle, et on est avec eux, et on part en Algérie. Marin des Montagnes, c'est aussi donc le vendredi 28, à 22h35 au cinéma Pathé Wilson et c'est signé Carrie Maynouz, un grand réalisateur. Quelques petits repères, il y a un focus intéressant à Ciné Latino qui s'intitule Miradas y Voces Indígenas, qui est consacré aux cinéastes autochtones. On en a parlé la semaine dernière avec Odile Boucher, vous vous souvenez. Eh bien, retournez voir ces films faits par des peuples natifs, des peuples qui étaient en Amérique du Sud avant que les Européens ne se pointent.
Et viennent... nous parler de la difficulté de traduire ce langage.
Oui, et effectivement, puisqu'il y a plus de 556 langues différentes.
Ah oui.
Ça fait beaucoup, hein.
Ah oui.
Alors, il n'y aura pas un exemplaire avec des films, avec ces 556 langues, ça ferait beaucoup de films à voir. Mais on pourra découvrir, en passant du Pérou à la Colombie, de la Bolivie au Brésil, les langues Otomi, Kalina, Wayana, puis
le Quechua. Parce que le Quechua, il faut aller chez Decathlon pour parler le Quechua.
On dit que traduire, c'est trahir.
Et oui, parce que c'est traduit en espagnol, puis après d'espagnol au français, donc il y a forcément une perte de...
Certes, ouais. Mais au moins on a une petite idée de ce qu'il raconte, parce que à posséder cette langue, c'est bien compliqué, et c'est un moyen qu'ils ont trouvé, le cinéma, un média mémoriel qui leur permet de raconter leur histoire, et de dire que c'est leur terre.
Bien sûr. Oui.
Ça s'appelle donc Miradas y voces indígenas, c'est voix et regards de cinéastes autochtones, et puis plein d'autres belles choses, cinelatino.fr pour tout le programme et toutes ces choses que vous avez, tous ces films, pardon, et ces rencontres que vous avez envie de faire et qui viennent d'Amérique du Sud. Laurent, vous scrutez l'affiche de la semaine.
Et oui, on retourne en Amazonie avec Manas, le premier film de Mariana Brennan. C'est l'histoire de Marcel, 13 ans, qui vit sur l'île de Mararo, au cœur de la forêt amazonienne, avec ses parents, ses frères et sa petite sœur. Elle grandit avec des rêves d'émancipation, inspirés par le départ de sa sœur aînée. Mais sur les barges, le long de la rivière, ses illusions commencent à s'effondrer, révélant un monde d'exploitation et d'abus qui gangrène sa communauté. Elle est déterminée à se protéger et à accéder à un avenir meilleur. Coproduit par les frères Darden et le réalisateur brésilien Walter Salles, ce premier long métrage raconte donc le désir de libération d'une jeune fille de 13 ans au cœur de cette forêt amazonienne pour échapper à son père, incestueux avec elle comme avec ses sœurs. Un besoin vital qui va se fracasser sur l'attitude tout aussi prédatrice des hommes à qui elle va vendre des crevettes sur les bateaux et qu'elle envisageait comme la possibilité d'un ailleurs. Mariana Brennan trouve le ton juste, étouffant, mais jamais glauque, car toujours mue par un espoir pour parler de ces violences faites aux femmes. À noter qu'il n'y a pas une seule scène du film qui représente les abus subis par les jeunes filles. L'important est l'empathie que le spectateur peut ressentir pour l'héroïne. Louis-Marie, vous n'avez pas chômé cette semaine parce que vous avez rencontré la réalisatrice Mariana Brennan pour son premier film.
Et oui, et qu'elle présentait donc à Ciné Latino et un premier film qui est en salle dès aujourd'hui. C'est assez remarquable. Le film était donc diffusé en ouverture. C'était un des quatre films proposés à l'ouverture de Ciné Latino et donc en avant-première quelques jours avant qu'il ne soit dans toutes les salles de la région, mais aussi de France. Alors, Mariana Brennan avait commencé par faire des recherches, une enquête dans cette région particulière du nord du Brésil, comme vous l'avez raconté, du côté de l'estuaire de l'Amazone sur cette île qui est là. C'est grand, on est à l'Amazonie. La végétation était extraordinaire entre l'océan, le fleuve, la luxuriance des côtes, c'est assez hallucinant. Puis, il se passe des choses, vous l'avez dit, qui sont détestables. Et elle a mené donc cette enquête, Mariana Brennan, et elle s'est rendue compte au bout d'un moment qu'il serait bien compliqué de faire un film documentaire, parce qu'au départ, elle est documentariste.
Oui.
Et elle voulait pas mettre ces femmes en difficulté face caméra, et elle n'aurait pas témoigner de la même façon. Alors elle a décidé d'en faire un film. Il fallait qu'elle trouve une manière de raconter son histoire, ou pas son histoire, cette histoire.
O grande desafio de fazer esse filme foi encontrar uma maneira usar a linguagem cinematográfica para falar de um assunto que é muito violento e muito traumático e tem muito tabu de uma maneira respeitosa e sensível. Acho que foi o grande Oui, donc pour moi, le grand défi était, pour ces films, était de trouver une façon de raconter cette histoire cinématographiquement, d'une façon respectueuse.
Eh oui, et elle y est remarquablement arrivée, et le travail qu'elle a livré, eh bien, il est justement entre la fiction et le documentaire, servi par une distribution remarquable. Elle a réussi à faire quelque chose de très fort, très puissant, et son travail, donc, entre la fiction et le documentaire a été remarquable. Écoutez-la.
Eu acredito que esse foi a mistura perfeita entre o documentário que bebe da realidade e que precisa... Para mim era muito importante que quando você assistisse o filme, você acreditasse no que você estava vendo.
Je voulais vraiment travailler entre les limites, entre la fiction et le documentaire, donc pour que le spectateur croie dans cette réalité, qui est une réalité, mais en même temps, il fallait construire cette mise en scène à travers la fiction pour qu'on puisse accompagner l'histoire de cette fille, de cette
menina, até o final da, até o final da história.
Je le disais, les interprètes sont remarquables, et en particulier cette toute jeune comédienne d'à peine 13 ans qui s'appelle Jamily Correa, qui est vraiment extraordinaire dans le film. C'est son visage qu'on voit sur l'affiche, lumineux, qui regarde vers le ciel. C'est elle qui joue Thiel, parce que c'est comme ça qu'on la surnomme. Et à ses côtés, c'est Fatima Macedo qui joue le rôle de sa maman, Danielle. Elle est une actrice confirmée. Alors, avec Manas, Manas ça veut dire sœur en brésilien. Et Mariana Brennan aborde la sororité entre femmes, sœurs ou amies. C'est ça. Et elle montre comment elle tente de se protéger mutuellement face à des réalités terrifiantes. Alors, elle ne signifie rien explicitement, surtout pas les abus, vous l'avez dit, Laurent, dont ces jeunes filles sont victimes. Et elle réussit à retranscrire l'angoisse et les luttes de Thiel avec autant de délicatesse que de respect. C'est ça qui est extraordinaire dans le film. Tout est affaire d'image et de son. C'est remarquable. Alors, il y a quand même le personnage d'Aretha, la policière, qui incarne l'espoir de changement, soulignant que même dans un contexte où la loi est absente, hein, là, il faut pas le nier, le courage des jeunes filles peut faire la différence. Et alors, donc, Manas, c'est un témoignage poignant sur les violences faites aux femmes et la recherche de solidarité entre elles.
Petite revue de presse sur ce film. Manas aborde la condition de la femme avec rudesse, mais aussi avec l'espoir d'un réveil salvateur, selon Abus de Ciné. Un film tout en subtilité, selon Le Figaro, et Libération à moins aimé. La grâce des débuts du film cède peu à peu aux étapes fléchées. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Le Garçon, réalisé par Zabou Bretman et Florent Vassot, avec Isabelle Nanty et François Berléand. Alors, c'est assez incroyable. Tout débute avec les photos d'une famille, inconnue, hein, qu'on a l'impression pourtant de connaître. Et puis au centre, il y a un garçon. Alors, qui est-il? Quelle est son histoire? Et si chaque individu était aussi le héros involontaire d'un conte? Le film est donc une enquête familiale assez vertigineuse, hein, où réalité et fiction se mêlent jusqu'à se confondre parfois. Alors, c'est un film qui est né par hasard, hein, de la découverte dans une brocante d'une série de photos d'une même famille, et de la curiosité de Zabou Bretman et de Florent Vassot, d'en savoir plus sur eux, et plus précisément sur ce garçon qui tape à l'œil tout de suite. Qui était-il donc? Et puis, est-il encore de ce monde? Est-il encore vivant? Puis, quelle fut sa vie entre le moment où la photo a été prise et puis aujourd'hui? Donc, c'est un vrai jeu de pistes, hein, que va proposer Le Garçon, selon un principe original mêlant documentaire et fiction. Alors, le documentaire, c'est pour l'enquête menée par Florent Vassot, hein, sur la piste du lit garçon. Et puis, la fiction, ben, à travers laquelle Zabou Bretman tente d'imaginer son parcours en faisant appel à des comédiens. Et si ce mélange des genres peut paraître artificiel au départ, ben il trouve vite sa vitesse de croisière, sa manière de faire dialoguer documentaire et fiction, sans chercher à un équilibre parfait, mais en les faisant se nourrir l'un de l'autre. C'est vraiment une vraie curiosité, un film vraiment original à découvrir. Un merveilleux jeu de piste dans lequel on aime se perdre et qui, mine de rien, parle de l'impermanence de nos vies, de la mémoire et de l'oubli, selon Lobbes. Un dialogue alerte entre fiction et documentaire, Le Garçon donne lieu à un bouleversant crescendo émotionnel, selon La Croix. Premier à moins aimé, le dernier acte articulé sur les révélations trop explicatifs enlève pour sa part la part de mystère et d'incertitude qui faisait jusqu'alors le charme de l'ensemble. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Je le jure de Samuel Teiss avec Marina Foïs, 100 millions de Nat Dumont, ça fait rêver tout le monde de gagner 100 millions, avec Kad Merad et Michel Larocque, c'est la comédie de la semaine. Aimer perdre de Lenny et Apo Gilt, un film qu'on peut voir au Cosmo à Toulouse. À noter que ce film a eu l'Enfant d'or du meilleur film au Fifigro 2024, c'était il y a quelques mois. On peut voir aussi Tardes de Soledad d'Albert Serra, un documentaire sur la tauromachie. On peut voir ça au Régent à Saint-Gaudens ou à l'ABC à Toulouse. Le joueur de Go de Kajuja Shirachi à l'ABC Toulouse. Novocaine de Dan Berk et de Robert Olsen. On peut voir aussi Les Contes de Coca-Cola de Seppo Mattila à l'American Cosmographe, De la guerre froide à la guerre verte, un documentaire d'Anna Recalde Miranda. Et pour les plus petits, Au fil de l'eau, un programme de 5 courts métrages d'animation dès 3 ans qu'on peut voir par exemple à Cahors, au Grand Palais. Et pour finir, c'est Lire Lolita à Téhéran d'Eran Riklis, et c'est l'excellent Grégory Com qui nous en parle.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, je vous remercie encore une fois de me permettre de sortir de ma zone de confort, sortir des critiques habituelles du monde geek ou du monde des séries télé, pour vous parler d'un film qui pour moi est particulièrement important et que je recommande à tout le monde d'aller voir. Il est d'utilité publique, il devrait être diffusé dans les écoles à un moment où des débats passionnés sont sur les sujets religieux et sur le fait religieux, notamment dans le sport. Il y a un film qui vient poser les choses, il s'appelle « Dear Lolita à Téhéran ». Il est particulièrement important dans notre temps. Comme vous le savez, j'ai eu la chance d'interviewer le réalisateur, Eran Riklis, et donc je vais vous parler de ce film et pourquoi il faut absolument aller le voir. Alors, quel est le synopsis ? C'est une adaptation en fait d'une histoire vraie, et c'est l'adaptation d'un livre. Hazar Nafisi, qui est l'autrice du livre et qui raconte son histoire, est professeure à l'université de Téhéran et elle réunit secrètement 7 de ses étudiantes pour lire des classiques de littérature occidentale interdits par le régime des Mollahs. Alors que les fondamentalistes sont au pouvoir, ces femmes se retrouvent, retirent leur voile et discutent de leurs espoirs, de leurs amours et de leur place de la société dans la plus oppressive possible. Ce qu'elles veulent, elles, c'est la liberté. Ce qu'elles veulent, c'est la liberté déjà de penser, de discuter. Pourquoi ce film est important ? Il est important parce qu'en fait, il montre la réalité d'un régime religieux et politique. Et comme le dit très bien le réalisateur, par le biais de ses héroïnes, à partir du moment où une religion devient politique, elle cesse d'être une religion. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un film aussi courageux. Pour moi, c'est peut-être un des films les plus importants de ces 10 dernières années, avec une réalisation forte et soignée, parce que c'est un bon film en plus. C'est pas qu'un film avec un message fort, c'est un très bon film, avec des actrices extraordinaires, toutes iraniennes. Il a souhaité à ce que ça soit des actrices iraniennes pour raconter l'histoire de l'Iran. Et en fait, ce film, il nous rappelle que la banalisation de l'horreur peut s'installer à tout moment, et qu'en ce moment encore, les femmes souffrent atrocement en Iran. C'est un film donc qui va se passer sur plusieurs années. L'héroïne rentre avec son mari en Iran, pensant qu'après la révolution et la chute du Shah d'Iran, les choses iraient mieux. Et malheureusement, petit à petit, les fondamentalistes commencent à prendre le pouvoir, enlever un maximum d'autonomie aux femmes, pour même les obliger quasiment à la fin à ne plus penser. Et ce qui est dramatique, mais à la fois fort bien expliqué dans le film, c'est que malheureusement, il y a des hommes qui font ça, et il y a des femmes qui participent à ce régime. C'est là où le film est sans limite. Il raconte la réalité, il ne se dit pas « tiens, on va policer les choses dans un monde où on police tout en ce moment ». Il ne va pas policer les choses, non, il va nous donner la vérité frontale. Et c'est là où il est extraordinaire. Je le redis encore une fois, la réalisation, elle est magnifique. C'est tourné à Rome, mais on a l'impression de revoir les images d'archives d'Iran. Donc, c'est très, très bien fait. Encore une fois, comme m'a dit le réalisateur, il a essayé d'être financé et tourné en France et en Allemagne. Les gens trouvaient que c'était trop casse-gueule. Ils ont pas voulu. Honte à la France. Je veux dire, le CNC, vous faites quoi? Vous financez tout et n'importe quoi. Vous financez des œuvres nulles qui ne font aucune entrée. Et ça, vous refusez. Alors que on parle du droit des femmes. Honte à vous. honte au ministère de la Culture. Revenons sur le film parce que c'est bien plus important que ces gens médiocres. Nous avons effectivement énormément d'actrices extraordinaires, hein, vraiment, les actrices israéliennes ont un talent fou, notamment, alors je vais peut-être écorcher son nom, Golshifet Farahani, qui est une actrice mondialement connue, extrêmement courageuse, qui elle-même a vécu sa dictature, a été menacée de mort, et prend ce rôle avec un courage incroyable, et lui donne une portée extraordinaire. Alors c'est un rôle qui aura pas d'Oscar, hein, parce que on donne pas d'Oscar à ce genre de film, mais elle mérite tous les prix. Les autres actrices aussi. Derrière, encore une fois, quel est le au final le message du film, le but du film? Eh bien, en fait, c'est ce que m'a dit le réalisateur. J'essaie de faire des films démocratiques. Je peins un tableau, mais ensuite je fais confiance au public pour regarder le film et prendre ses propres décisions. Je tente juste de leur donner les clés de compréhension et je fais confiance au public. Merci à Aaron Reckless de faire confiance au public, de pas nous imposer une idéologie, mais de nous dépeindre quelque chose, de nous aider à grandir, à nourrir notre réflexion. Ce sont les meilleurs récits, comme il l'a dit très clairement. J'essaye, avant de faire passer un message, de faire surtout une bonne histoire. Et c'est vrai, c'est une histoire formidable, incroyable, dramatique et touchante. Alors, ben, vous vous en doutez, hein. Oui, il faut aller voir, lire Lolita à Téhéran. C'est un acte à la fois pour vous divertir, parce que le film est excellent, mais c'est un acte militant. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les femmes iraniennes sont massacrées, on leur enlève leurs droits, on leur fait des choses horribles. Et aujourd'hui encore, elles luttent. Alors on n'a pas à faire beaucoup de choses, entre guillemets, on va pas aller lutter pour la plupart d'entre nous, mais déjà aller voir ce film, c'est participer à petit niveau à la lutte, et je vous conseille vraiment de le faire. Je vous remercie.
Vous savez donc quel est le coup de cœur de la semaine de Grégory Combe, qui, il l'a dit en début de son commentaire, qu'il est sorti de sa zone de confort pour nous parler d'un film intitulé donc « Lire Lolita à Téhéran » d'Aaron Reckless.
Declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer.
Dans le film Manas de Mariana Brennan, les jeunes adolescentes de temps en temps se retrouvent, chantent une espèce de karaoké guinche sur ces musiques-là. Et cette musique-là, c'est Star Noir de Valeria Paiva. Mais je suis sûr que vous avez reconnu l'original.
C'est Cyndi Lauper ?
Non, c'est une Britannique célèbre pour son rock et... Bonnie Tyler, exactement. Son rock et sa voix cassée, le titre du morceau qui avait cartonné. C'est son plus grand succès, d'ailleurs, au début des années 80. Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Cette fois-ci, en portugais, en brésilien. Et ça marche plutôt pas mal.
Com toda a força que há dentro do meu coração, com todas as palavras.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Voilà ce que les Anglais ont apporté à la grande cuisine. La frite. Et qu'est-ce que les Anglais mangent d'habitude avec les frites? Pour les rendre plus intéressantes? Mais attendons voir une minute. Le poisson. Pas vrai? Oups. Oh, le petit poisson. Attention, on descend. Délicieux. Tu veux que je mange le verre? Allons-y. Comment il s'appelle? Bon, apparemment, c'est pas Vanda. Appelons-le déjeuner. Hein? Salut, déjeuner, salut. Ouais. Vaut mieux éviter les verres. Ils sont pas encore mûrs.
Eh oui, éviter les verres, ils sont pas encore mûrs. Et lui, il est considérablement secoué. Lui, c'est Otto West. Et avec Archie Leach et Ken Pyle et Vanda Gershwitz, ils ont fait un braquage, ils ont piqué des bijoux, mais oui, ils se les disputent.
C'est bien ça, avec Jamie Lee Curtis.
Jamie Lee Curtis qui joue le rôle de Vanda, c'est John Cleese qui joue le rôle d'Archie Leach, c'est Michael Palin qui joue le rôle de Ken Pyle. Alors c'est important de dire ces deux noms parce que ces deux-là...
On les connaît.
Eh ben, ils font partie des Monty Python. Oui. Mais alors, c'est pas un film des Monty Python. Il faut pas tout mélanger. Mais néanmoins, Cleese et Palin sont des Monty Python. Et Kevin Kline, l'acteur américain extraordinaire qui joue le rôle d'un Allemand complètement fondu. Et vous avez compris que pour le torturer, pour qu'il le fasse parler, non, il tape pas dessus, il lui met des frites dans le nez et il lui bouffe les poissons qui sont dans l'aquarium.
Oui. C'est la maltraitance animale, mais ouais, les poissons rouges.
Oui,
mais ils sont rouges, ça veut dire qu'ils sont mûrs. Alors les poissons verts, il faut pas les manger.
Ouais. C'est ça. Ouais. Mais c'est qu'il les mange pour de bon.
Ah oui.
Oui. Ah, oui, dans le film, il les mange pour de bon.
Hein. Pas que ça a été tourné une seule fois, parce que
oui.
Ils font pareil d'un Koh-Lanta, ils mangent pour de bon.
Non. Là, aucun animal n'a été maltraité. C'est marqué toujours sur les génériques de fin. Oui. Donc y compris les poissons rouges. Donc, un poisson nommé Vanda, et oui, on en parle parce que
c'est un grand classique.
Un grand classique, et c'est un film que vous pourrez voir si vous habitez Rodez. Parce que dans le cadre de la programmation film, de sa programmation film, plan culte,
ouais.
C'est beaucoup mieux comme titre. Le CGR Rodez propose mardi prochain, 1er avril à 20h, le film dans sa version originale. Donc vous entendrez cette scène avec les voix des acteurs. Vous continuerez à aller voir d'autres films. Alors là, il suffira d'aller au Pathé Wilson mardi 1er avril à 20h pour voir Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry.
Bien, vous l'avez bien dit.
Ah oui, Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst.
C'est difficile, ce titre.
Ah oui, c'est une horreur. Attendez, c'est pas le seul, il va y en avoir un autre après.
Allez,
mais en français.
Chaud, là,
mais là, Eternal Sunshine, je n'irai pas plus loin, oui. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Joël qui il comprend pas pourquoi Clémentine ne lui adresse plus la parole. Clémentine, c'est celle qu'il aime, il se souvient d'elle, elle ne lui parle plus, et pire encore que ça, alors qu'ils ont vécu, elle est avec un autre homme, il comprend rien, et il se rend compte qu'en fait, parce que c'est possible, parce qu'il y a une entreprise qui sait le faire, on lui a effacé tous ses souvenirs amoureux de la tête.
Ah oui, c'est vrai, c'est ça.
Eh ouais. Mmh. Et il va faire en sorte de les faire revenir. Jim Carrey, Kate Winslet.
Ouais.
Ça, c'est réussi. Puis c'est Michel Gondry qui fait ça et ça marche plutôt bien. Vous pouvez voir le film, donc je le disais, au Pathé Wilson, mardi 1er avril. À 20h, le lundi 31 mars, à 21h, là, c'est au Pathé La Belge, un peu plus loin, c'est Blade Runner 2049.
Ah oui,
la suite.
Bon.
30 ans après les aventures de Rick Deckard, qui était Harrison Ford, et raconte les aventures d'un Blade Runner, qui est chargé de traquer les réplicants des androïdes qui ont été créés à l'image de l'homme. Sauf que ce policier-là, c'est un réplicant.
Et oui.
Ah ben, ça fait c'est compliqué. Et c'est Denis Villeneuve qui s'est aventuré à imaginer une suite à ce film culte signé Ridley Scott, qui était sorti en 1982. C'est vous dire, le film est sorti, lui, Blade Runner 2049, en 2017. Et ça marche plutôt pas mal.
Ah oui, oui. Et on retrouve Harrison Ford.
Oui, alors dans l'enquête,
solitaire.
Le Blade Runner là, va partir sur ses traces parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. On se demande s'il est mort ou pas, oui. Et il va le retrouver. Alors c'est Ryan Gosling qui joue le rôle de l'officier KD6-3.7. C'est son nom, mais aussi connu sous le prénom de Joe. Et puis, bon, ben, on retrouvera Harrison Ford, qui joue le rôle de Rick Descartes, toujours lui, mais avec de l'âge supplémentaire. Oui. Et il y a Anna de Armas, qui est remarquable, qui joue une espèce d'ami virtuel, qui ne peut accompagner Joe que quand il est chez lui.
Un hologramme.
Ouais, c'est une espèce d'hologramme, mais qui, un hologramme vivant, c'est assez trouble comme histoire, mais ça reste un hologramme.
Oui. Voilà.
Enfin, une dernière chose, au niveau des reprises sur le grand écran, au VO de Muret, dimanche 30 mars à 18h20, voilà le titre, de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. C'est signé Paul Newman. Eh oui, il réalisa ce film en 1976 avec sa femme en tête de générique, puisque c'est John Woodward qui interprète Béatrice. C'est l'histoire de Béatrice qui est une veuve d'une quarantaine d'années. Elle a deux filles, c'est Mathilda, qui lutte pour survivre dans une société qu'elle comprenne à peine. Allez voir ce qui se passe avec ses rayons gamma, les marguerites, tout ça, c'est bien compliqué. Mais en tout cas, ça marche diablement bien et ça n'a pas vieilli. Eh oui. De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites de Paul Newman, VO de Muret, dimanche 30 mars à 18h20. Et puis, un petit détour par la Cinémathèque hors les murs, aux abattoirs. Nous sommes partenaires de Films Noirs. Et là, vendredi 28 à 18h30, vous serez aux abattoirs pour voir La Dame de Shanghai. Ah, obligé.
Oui. Welles,
le film d'Orson Welles. Oui. Transforme l'image de Rita Hayworth au moment où d'ailleurs ils se séparaient dans la vie, hein, puisqu'ils étaient ensemble et ils ne l'ont plus été après le film. Ils se séparaient et là, c'est extraordinaire. La passion, il y a tout là, une femme fatale, un mari jaloux et une voix off, selon les propres dires de nos amis de la Cinémathèque, qui sait dès le début que ça finira mal, la voix off. Eh oui, ça finira mal. La Dame de Shanghai, donc. Vendredi à 18h30, au musée des abattoirs de Toulouse à l'Auditorium. Laurent, il vous reste quelques petites minutes pour nous livrer vos conseils ciné-télé.
Le cinéma à la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec Les Beaux Jours de Marion Vernouf avec Fanny Ardant et Laurent Lafitte. Julien, 40 ans, ne cache pas son attirance pour Caroline, une jeune retraitée. Elle finit par se laisser séduire. Une chronique douce amère et sensible sur le passage du temps. Jeudi sur TMC à 21h, ce sera Contagion de Steven Soderbergh avec Matt Damon et Kate Winslet. De retour d'un voyage en Asie, un homme meurt subitement d'une forme de grippe inconnue. La maladie se répand à une vitesse effrayante et la panique générale atteint l'ensemble de la population. Ça vous rappellerait ça? Un thriller choral très maîtrisé, hein, qui nous rappelle donc la crise du Covid, mais qui a été tourné bien avant, hein, avec un casting de choc. Vendredi, France 5, 21h, Donnie Brasco de Mac Newell avec Al Pacino et Johnny Depp. Joe Pistone est un agent du FBI et sa mission, c'est infiltrer la mafia new-yorkaise pour démanteler le réseau. C'est sous couvert du pseudonyme Donnie Brasco que Pistone se présente à Lefty, un mafieux de second ordre, tiré d'une histoire vraie, un polar palpitant et nerveux. Dimanche, Arte, 21h, un petit western, messieurs, Les Deux Cavaliers de John Ford avec James Stewart, Richard Widmark, un shérif porté sur la bouteille, un lieutenant de cavalerie, des familles de prisonniers blancs enlevés par les Comanches. Voilà un bon cocktail pour un western du maître du genre. Une fantaisie insolite et grinçante qui doit énormément à James Stewart et Richard Widmark. Le conseil de lecture, ce sera Sociologie du cinéma et de ses publics, d'Emmanuel Etis. le cinéma s'est imposé, comme vous le savez, comme l'une des pratiques culturelles la mieux partagée, au point d'investir nos vies. Alors, qu'est-ce qui a permis au cinéma d'occuper cette place? Comment la salle de ciné s'est-elle installée au cœur de la cité? Pourquoi les films nous parlent autant et nous aident à comprendre nos vies? C'est tous les thèmes abordés par l'auteur. Je rappelle le titre du livre qui est vraiment très intéressant, « Sociologie du cinéma et de ses publics » d'Emmanuel Etis, que vous retrouvez aux éditions Armand Collin. Pour 18 euros. Tony Guillaume, je vous l'offre.
Merci beaucoup.
Lisez-le, Laurent. C'est très intéressant. Voilà, merci pour le cinéma à la télévision cette semaine.
Vous arrêtez de jouer avec la boîte à meux.
C'était très marrant, ça, oui.
Vous arrêtez de jouer avec la boîte à meux et vous faites rire nos stagiaires de 3e.
Oui, oui, oui. Ce sont les fils de l'homme invisible, c'est ça.
C'est ça. Sur cette très belle musique signée Puerto Perla et Victor Capulli, qui illustre une des bandes annonces de Ciné Latino, on va vous livrer nos coups de cœur. Hein ? Allons-y, messieurs, quels sont vos coups de cœur ?
Les coups de cœur, ce sera pour Manas, Le Garçon et Tardes de Soledad d'Albert Serra, un film sur le tauromachie.
Manas, Le Garçon, Tardes de Soledad, le ciné latino jusqu'au 30 mars, la Cinémathèque, hein, le film noir. Gagnez vos places sur cinéma@radioprésence.com. Évidemment, le charme discret de la bourgeoisie aux abattoirs.
Et en ce qui me concerne, ce sera comme vous, Guillaume. Comme vous, Manas, Le Garçon, Tardes de Soledad, Ciné Latino et la Cinémathèque. Et puis je voulais, il reste quelques secondes, remercier Silvia Aceredo Bocci, et Raphaël Bocci Fragoso qui ont assuré la traduction de Mariana Brennan. Sinon, vous n'auriez rien compris sans eux. Allez, le moment est venu de nous quitter. Merci messieurs.
Merci à vous.
Bonne soirée, à mercredi prochain.
On parlera du film noir la semaine prochaine, puisque nous sommes partenaires à 20h. Nathalie Cardon, restez fidèles à Présence. À la semaine prochaine, salut.
En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi
e con il tuo spirito.